Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, et Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE, mis en cause dans les détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Ceci ressort de l'enquête menée par l'inspection générale des finances, révélation faite hier à la RTNC par le premier président de la Cour des comptes. Seth Kikuni conteste la validité de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. Il a saisi la Cour constitutionnelle pour ce faire. Son recours parle d'irrégularité et fraude. Vous entendrez l'avocat du candidat Seth Kikuni. Madame, Messieurs, bonjour. Ils sont mis en cause dans les détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE et consorts, pourraient être interdits de quitter le territoire national. Une requête dans ce sens est remise à la DGM, Direction générale des migrations, par la Cour des comptes. Il s'agit en effet des résultats de l'enquête menée par l'inspection générale des finances dans la gestion de la Banque centrale du Congo, qui mettent en cause ses personnalités. Ces résultats parlent de fraude de gestion et ont occasionné des détournements de cette somme. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes, l'a révélé hier sur le plateau du journal télévisé de la RTNC. Suivez un extrait de sa déclaration proposée par Pele Kipela Mondo.
L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de l'organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette cour a traduit devant la Chambre des disputes budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Rebank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Mulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMINE au moment des faits, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Rebank au moment des faits.
Parlons à présent des élections 2023 en RDC. Le greffe de la Cour constitutionnelle a été saisi hier lundi d'une requête du candidat à l'élection présidentielle, Seth Kikuni, en contestation de la validité de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. Ce recours accuse la CENI d'avoir retenu cette candidature malgré certaines irrégularités et fraudes, d'après l'avocat du candidat Seth Kikuni. Maître Nico Omaengele explique ici le motif de cette requête au micro de Jeff Ngoy.
Le candidat Seth Kikuni vient de saisir la Cour constitutionnelle en invalidation de la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Antoine pour deux motifs majeurs, à savoir défaut de qualité et fraude à la loi. Défaut de qualité car à l'élection présidentielle de 2018, il avait postulé sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix, mais à la prochaine élection présidentielle du 20 décembre 2023, il a déposé sa candidature sous une autre identité, à savoir Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, en violation du principe de l'immunité du nom consacré à droit congolais. D'ailleurs, c'est à tort qu'il a 5 ans durant signé des ordonnances présidentielles sous une identité pirate. La fraude corrompt pas tout, il appartiendra à la Cour de dire les droits car tous sont égaux devant la loi en invalidant certes la candidature de M. Tshilombo qui est déposée en violation de la loi électorale.
Pendant ce temps, le président de Ensemble pour la République appelle à la transparence pour des élections apaisées. Il a dit hier, au cours d'un meeting tenu juste après son arrivée à Lubumbashi en provenance de la Tanzanie, ses sympathisants et autres membres de son parti ont tenu à lui apporter tout leur soutien à l'occasion de la validation de sa candidature par la CENI en prévision de la prochaine élection présidentielle. Jean Gandou, au reportage.
C'est une foule immense qui a accueilli Moïse Katumbi rentré à Lubumbashi ce lundi en début d'après-midi. Entouré de ses proches collaborateurs, le président de Ensemble pour la République a marché à pied jusqu'au siège de son parti après plus de 4 heures. Ses sympathisants et autres curieux grossissaient le rang de ceux qui ont fait le déplacement de l'aéroport et de ceux qui l'attendaient le long de la route où il devait passer. Et c'est devant le siège de son parti situé sur l'avenue Kamanyola qu'il s'est adressé à ceux qui l'accompagnaient. Christian Mwando, son haut représentant, a commencé par saluer la validation de sa candidature par la CENI avant d'indiquer que, désormais, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qu'il a appelé à privilégier la paix. Prenant la parole, Moïse Katumbi a souligné que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de nation. Voilà pourquoi il a émis les vœux de voir le pays se diriger vers les élections dans la paix et que le meilleur l'emporte dans la transparence. Pour lui, en politique, ils sont des adversaires et non des ennemis. Pour ce faire, il a invité ses partisans à la vigilance et surtout à privilégier la paix, gage de tout développement. Lubumbashi, Jean Gandou. Radio Capi.
Toujours à propos des élections en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication édicte une directive à respecter par les médias et les candidats durant la période électorale pour éviter tout dérapage qui risquerait de porter atteinte à la paix sociale en RDC. À cet effet, il annonce quelques séances au cours desquelles sera vulgarisée la dite directive à l'intention des médias et des candidats à la présidentielle. Depuis 5 jours déjà, le CESAC dit avoir déployé en province ses équipes pour cet exercice et à Kinshasa, cela débute le jeudi prochain. Gaudens Banza, un des membres de la plénière de cet organe de régulation des médias congolais, explique cette directive au micro de Jeff Ngoy.
L'instance de régulation des médias en période de médias en RDC a voulu prévenir parce que nous attirons à travers ces directives l'attention des médias, des journalistes et de tous les acteurs sociaux et politiques, bref, tous les intervenants sur les médias opérant en RDC, de faire attention pour ne pas développer dans les médias les discours d'incitation à la haine, à la tribalisation des enjeux, incitation à la violence, d'atteinte à la vie privée et à la dignité des individus, mais aussi de ne pas verser dans les injures ou encore moins dans n'importe quel propos de nature à violer les textes et les lois et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Il est également demandé à travers ces directives aux journalistes candidats de se libérer de leur rédaction pour ne pas être juge et parti. La même directive prévoit également le tirage au sort de l'ordre de passage sur les médias des candidats.
Retrait accéléré de la MONUSCO. La mission onusienne en RDC se retire fin décembre 2023. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le vice-premier ministre, ministre en charge des affaires étrangères. Christophe Lutundula l'a dit lors de la conférence conjointe avec son collègue des médias Patrick Mouyaya hier lundi. Christophe Lutundula dans cet extrait proposé par Paul Matendo.
Lorsque le président Tshisekedi a rencontré M. Guterres, une phrase qui dit tout. Celui qui a parlé le premier, il a dit, Monsieur le Président, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez demandé que la MONUSCO s'en aille. Moi, je vous dis que je suis prêt, non, que je veux m'en aller. Tout est là et ça s'est passé dans cette harmonie, dans la compréhension mutuelle. Et après, nous avons encore travaillé, moi à partir d'ici, l'ambassadeur Zénon et son équipe à partir de New York. Nous avons travaillé pendant 2 semaines pour avoir la déclaration du président du Conseil, la déclaration du Sisi. À cet égard, donc concernant la MONUSCO, le Conseil prend bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Palapenapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait.
Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies est le reflet du monde tel qu'il est, tout en incarnant dans nos aspirations ce qu'il pourrait être. La déclaration du secrétaire général de l'ONU à l'occasion du 78e anniversaire de la création de cette organisation mondiale avec l'entrée en vigueur de sa charte le 24 octobre 1945, Antonio Guterres appelle à la construction d'un monde de paix, de développement durable et des droits humains pour toutes et pour tous. En cette journée des Nations Unies, mettons tous nos espoirs et notre détermination au service du monde meilleur auquel nous aspirons, affirme-t-il. D'autres détails avec Grace Hamzati.
Pour le secrétaire général de l'ONU, la Charte des Nations Unies, entrée en vigueur il y a 78 ans, ce 24 octobre, est avant tout ancrée dans la détermination de surmonter les divisions, de restaurer les relations mises à mal et de bâtir la paix, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de ne laisser personne de côté, d'assurer la justice, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles, d'apporter une assistance vitale à celles et ceux qui sont dans le besoin, et de permettre par sa polyvalence de relever des défis qui n'existaient même pas lorsque l'organisation a été fondée, depuis la crise climatique qui menace notre existence même, jusqu'aux périls et aux promesses de l'intelligence artificielle. Il rappelle que les valeurs et principes qui guident l'Organisation des Nations Unies sont intemporels. Cela ne veut pas dire qu'elle doit rester figée dans le temps, précise-t-il. C'est pourquoi nous ne devons avoir de cesse de renforcer nos méthodes de travail et de poursuivre notre tâche en nous adaptant aux réalités du 21e siècle, ajoute-t-il. Il invite tout le monde à s'engager à bâtir un avenir digne du nom de l'Organisation des Nations Unies. Notre monde est divisé, nous pouvons et nous devons être les Nations Unies, conclut-il.
Autre nouvelle, nous poursuivons avec la série des reportages sur la cohabitation entre le parc national des Virunga et les communautés riveraines au Nord Kivu. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences du conflit entre les deux parties, conflit qui dure depuis plusieurs années. Sadiki Aboubakar nous en parle.
Dans le territoire de Lubero, une grande partie de la chefferie des Batangi est confrontée à une famine depuis plus d'une année. C'est la conséquence du déguerpissement de la population par des éco-gardes dans les villages de Marestoran, Kakindo, Tchanika, Katiwe et Ndwali. Cette zone considérée par l'ICSN comme une partie du parc national des Virunga est le grenier du sud du territoire de Lubero. Emmanuel Paluku Mumburo, chef de la localité du Kamandi Musuti, qui rapporte les faits, indique que d'autres champs de la population ont été détruits il y a un mois à Kamandi Lac et des agriculteurs arrêtés par des éco-gardes. L'ICSN avait pourtant affirmé avoir agi dans le respect des règles pour protéger les limites du parc de Virunga. Le chef de la localité du Kamandi Musuti parle également de l'arrestation depuis cette année sur le lac Édouard de 27 pêcheurs de cette localité et la saisie de leur matériel. Ils sont accusés de pêche illicite sur le lac, considéré par l'ICSN comme partie intégrante du parc. Des situations qui détériorent la cohabitation entre le parc national des Virunga et les communautés riveraines. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a annoncé avoir accéléré son départ du camp de Tessalit alors que la région de Kidal, dont fait partie cette localité, est le théâtre d'une escalade militaire entre acteurs armés pour le contrôle du territoire. La MINUSMA dit avoir achevé ainsi son retrait accéléré de cette base dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé, mettant en danger la vie de son personnel. Avant son retrait, ce personnel a dû se réfugier dans des bunkers à plusieurs reprises en raison des tirs. Et puis, Emmanuel Macron est arrivé mardi en Israël pour marquer le soutien de la France. 6 employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont été tués à Gaza en 24 heures. Le ministre chinois des Affaires étrangères a dit lundi à son homologue israélien que tous les pays avaient le droit de se défendre lors du premier appel entre les hauts diplomates des deux nations depuis l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mundo. Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.